Bonjour à tous, bienvenue sur Only a John, podcast numéro 108. Moi c'est Plax et je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo?
Eh ben écoute, ça va, salut mon cher Plax, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être de retour sur ce podcast, même si pour nous il se passe pas grand chose en ce moment, hein, vu que ce sont les playoffs et qu'on n'en fait pas partie.
Oui, et on n'en fait pas partie, et aucune équipe de la NFCS n'en fait partie, donc ça va aller tranquille, parce que je vois beaucoup de comptes qui sont là à suivre. Bah, de toute façon, une fois que t'en fais plus partie, tout ce qui te reste à faire, c'est d'espérer que tes adversaires directs ne gagnent pas le Super Bowl, donc je vois tous les comptes FR qui sont là à essayer de jinx un peu tous les adversaires, c'est assez rigolo. Et on l'a fait nous-mêmes pendant une semaine, et ça a plutôt bien marché, puisqu'ils sont tous fait éliminer, donc tant mieux. On va aujourd'hui parler puisqu'on profite de cette intersaison, évidemment, on va pas s'arrêter, alors qu'il y aura des périodes plus creuses, évidemment, il y aura peut-être pas des podcasts toutes les semaines, mais on va essayer en tout cas de suivre un petit rythme quand on pourra, et on va parler aujourd'hui de cette saison, on va faire un bilan global, sachant que les épisodes suivants seront plus dédiés un sur l'attaque et un sur la défense, où on parlera vraiment de ces escouades, voir qu'est-ce que les joueurs ont donné. Là, on va essayer d'être un petit peu plus, de prendre un peu plus un regard global sur cette saison. Avant de commencer, Thiergo, si tu le veux bien, j'aimerais que l'on parle rapidement du Patreon. Je vous rappelle, le Patreon, c'est le moyen pour vous de soutenir ce que l'on fait sur le blog, ce que l'on fait sur le podcast, ce que l'on fait sur Twitter, etc. Comment on fait, Thiergo, pour soutenir Only a Giant Media?
Only a Giant, oui, parce que sachez que nous sommes une société anonyme bientôt cotée en bourse.
En fait, on s'amuse par message parfois à s'imaginer des vies qui n'existent pas, où on aurait exactement créé un truc gigantesque qui génère des millions de dollars. Ouais, oui, je te laisse parler de ce Patreon.
Si un jour on arrive à générer un million avec ce truc, on invite tout le monde pour une énorme soirée. Enfin bon.
Ah oui, c'est clair.
Only a Giant Podcast a un Patreon. Ceux qui le connaissent déjà, bon, je vous rappelle l'adresse patreon.com/onlyagiantpodcast. Mais si vous êtes nouveau au podcast, tout d'abord, bienvenue. Et sachez qu'en fait, il y a différentes manières de nous soutenir. La plus traditionnelle, c'est de nous mettre des commentaires, des likes, etc. Mais si vous voulez faire le niveau supérieur, vous pouvez aller sur Patreon, vous abonner pour un ou plusieurs mois, selon ce que vous voulez faire, et il y a différents niveaux de contribution. Alors il y a le niveau Graham Gano qui est 3 euros, si je ne dis pas de bêtises, j'ai les prix en dollars australiens, donc ça ne va pas beaucoup vous aider. Ensuite on a Saquon Barclay qui, c'était quoi, c'était 10 euros
ouais, Plaxico Burress. Il va peut-être falloir le changer, le Saquon Barclay d'ailleurs.
Bien. Voilà, et puis après on a Plaxico Burress, et enfin le top niveau Eli Manning. Donc voilà, si vous voulez juste faire une contribution ponctuelle, vous vous abonnez un mois et puis vous arrêtez l'abonnement. Il y en a qui font des contributions sur plusieurs mois, et on en profite encore une fois pour remercier tous nos contributeurs Patreon qui nous aident beaucoup et qui en fait permettent au podcast d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est super.
Et si vous ne souhaitez pas participer, eh bien pas de problème, vous avez le droit d'écouter quand même, donc voilà, vous pouvez mettre des likes, des pouces et des commentaires, c'est toujours cool de pouvoir échanger, et ça nous fait plaisir. On va parler de cette saison. Il y a évidemment, on va essayer de faire un petit retour sur l'ensemble des matchs et voir à partir de quand ça a commencé à partir en couille, si je peux m'exprimer ainsi, puisque globalement, on a eu un début de saison très difficile, ça a été mieux en fin de saison, c'est quand même une généralité sur ce qu'on a pu voir cette saison. Globalement, hein, tu vas nous parler un peu plus des matchs, mais moi je me souviens qu'en gros, à partir du premier drive, c'est parti en sucette. Drive qui se passait bien contre les Cowboys, c'est ce que Josh Allen a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il dit, on a eu un bon drive, il y a eu un faux départ de Andrew Thomas, et à partir de là, catastrophe pendant plusieurs matchs.
Exactement.
Je te laisse aller nous raconter un peu comment s'est passé cette saison, avec un début de saison difficile et une fin de saison un petit peu meilleure.
Écoute, pour moi justement, cette saison, c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est trois actes. Il y a eu le premier acte, et si vous vous rappelez de vos cours de français, hein, en seconde ou en première, il me semble, où on te parle de la structure d'une pièce de théâtre, tu as le premier acte où on met en place le scénario et l'événement catastrophique. Sauf que nous, l'événement catastrophique, il est arrivé dès la fin du premier drive, et on a commencé la saison par un 1-5, un Daniel Jones qui s'était blessé contre les Dolphins, donc qui jouait pas, c'était absolument horrible, et heureusement, on a eu les Commanders pour nous relancer sur une deuxième victoire de la saison. On a reperdu Daniel Jones quelques semaines plus tard contre les Raiders. On a eu la devitomanias, donc ça c'est l'acte 2. Et la devitomania, c'était très cool pendant un moment, surtout pour face aux Commanders, aux Patriots, et puis la petite upset contre les Packers. Et c'était terminé avec les Saints. Là, on a mis Tyrod Taylor. Et Tyrod Taylor nous a fait la fin de saison avec une équipe qui était globalement en plutôt bonne santé par rapport au début de saison où on a eu de gros problèmes de blessures. Et en fait, on a commencé à voir justement une équipe qui était plus productive. Donc, on a terminé la saison avec un bilan de 6-11 qui, si, je dois dire, n'est pas si loin que ce qu'on avait prévu. On s'était dit, ouais, peut-être qu'on aura un 8-9, quelque chose comme ça. Sauf qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi catastrophique que ça en début de saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je suis complètement d'accord. Je me suis noté une petite chose quand même, et ça, c'est ce qu'on avait évoqué. C'est que il fallait pas grand-chose pour que cette saison soit bien plus positive, au moins dans nos têtes. On a eu deux matchs que l'on aurait dû gagner. Les Bills, aussi improbable que ça puisse paraître, on aurait dû gagner, puisqu'il y a eu... c'était un match très serré qui s'est fini à 14-9. On était en train de... On était sur une série de trois défaites consécutives, c'était la quatrième de suite. Et on aurait pu marquer, on aurait peut-être dû marquer d'ailleurs, ou au moins avoir des chances supplémentaires de marquer, puisqu'il y a une faute qui n'a pas été sifflée sur Darren Waller. Donc voilà, ce match, pour moi, on aurait dû le gagner, ça aurait sûrement changé des choses. Et contre les Jets, c'est pareil, les Jets, on les domine jusqu'à ce qu'il se passe des événements complètement improbables, que la fameuse histoire du ballon que le joueur replace lui-même, etc., etc. Enfin bref, des passes complétées de folie de leur QB qui finalement n'a pas donné grand-chose. Et avec
Gano qui tire blessé.
Voilà, bref, il s'est passé beaucoup de choses dans ce match-là, qu'on perd 13-10, qu'on aurait... Alors c'était encore pas folichon, hein, 13-10, c'est un peu... Voilà, de toute façon, sur tout ce début de saison, on marque très peu de points. Si je regarde les matchs contre les 49ers, c'est 12, Seahawks c'est 3, après c'est 16, après c'est 9, après c'est 7, après c'est 10, 6 après... Enfin, c'est terrible, c'est... Au niveau offensif, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 premiers matchs, ça a été vraiment catastrophique, jusqu'à, encore, on rencontre les Commanders, à chaque fois ils sont là, ces bons vieux Commanders, pour nous aider à redresser la tête. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on est à 6-11, si on gagne ces deux matchs-là, sachant qu'il y a aussi les matchs de fin de saison, puisque tu l'as dit, quand Tyrod Taylor a joué sur les Eagles, les Rams et de nouveau les Eagles, eh bien ça a été très serré, 33-25, 26-25, et finalement battre les Eagles 27-10. Mais il y avait moyen en fait qu'on soit plus un 8-9 ou même un 9-8. Et c'est là où je pense qu'on finit à 8-9. On dit pas que la saison a été catastrophique comme on a tendance à le dire avec un 6-11. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça s'est joué à peu de choses. Et l'année dernière, j'ai l'impression que ces matchs-là, on les gagnait. Quand il y avait vraiment ce petit momentum qui nous faisait switcher un peu le match et qui nous faisait gagner en fin de match, on n'a pas réussi cette année à faire ça. Et ces matchs-là, on les a pas gagnés alors que l'an dernier, on les gagnait. Donc on aurait pu très largement être à 8-9 ou 9-8.
Ouais, alors, en effet, on a ces deux rencontres et on pourrait peut-être même rajouter la première rencontre contre les Eagles qui était à portée
complètement
de victoire et on les a pas eu, donc ça
aurait les Rams 26-25 à un point près, c'est quand même alors que les équipes étaient plutôt correctes, hein.
Mais tu vois, admettons qu'on remporte 2-3 matchs de plus, donc on est à 9 victoires. Si on est à 9 victoires avec la branlée des Cowboys au premier match, la branlée en début de match contre les Cardinals avec le comeback, les 49ers qui nous pouillavent, les Raiders qui nous pouillavent, les Cowboys qui nous pouillavent encore.
Les Seahawks aussi, hein, ils nous ont mis cher.
Et exactement. Je t'avoue que j'aurais terminé la saison en disant « Ouais, c'est cool, on a la victoire, mais je suis pas serein. Je suis pas du tout serein. » Et peut-être que finalement, ce bilan catastrophique, il aurait pu être bien pire que ça, c'est peut-être, comme disent les Américains, « a blessing in disguise », dans le sens où ça nous fait nous rendre compte que on a encore beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, il y a... Certains pensent qu'il y avait des défauts de la saison dernière qui ont été un peu ignorés par tout le monde parce qu'on avait gagné, parce qu'on avait réussi à gagner un match contre une équipe de play-off et qu'on était sorti seulement en deuxième tour. Là, on est face à la réalité. Ces Giants ne sont pas encore une équipe capable d'aller au Super Bowl.
Ah bah non, ça c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, donc ce bilan qui effectivement est plutôt négatif et... ce que je trouve positif, moi, c'est que l'équipe à pas lâcher. Alors on a eu un parcours en fait qui est tout à fait inverse de ce que les Eagles ont connu. Les Eagles, ils commencent à 10-1 et puis d'un coup patatras, ils perdent contre les 49ers, ils perdent contre les Cowboys. Enfin, je dis ils perdent, ils se font déglinguer par les 49ers, ils se font déglinguer par les Cowboys. Il y a plus personne qui répond, c'est terrible. D'ailleurs, on a appris que Sirianni finalement allait être conforté dans son poste de head coach, qu'il est plus ou moins forcé de changer ses coordinateurs. Il aurait fait des mauvais choix à l'intersaison, puisqu'il a perdu ses deux coordinateurs, et ce qu'il a choisi n'était peut-être pas terrible. Donc voilà.
Tu vas voir qu'il va embaucher Wink.
Ouais, tu sais qu'il est en interview, hein. C'est possible qu'ils embauchent Wink Martindale. Écoute, ça ferait chier, mais pourquoi pas, c'est effectivement une possibilité. Bref, en tout cas, ils ont connu donc un début de saison fast et une fin de saison horrible, et ils se font sortir salement en playoff, on en a déjà parlé au dernier podcast. Et nous c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un début de saison catastrophique, et c'est là où, puis on en reparlera plus tard parce qu'il y a des choses que tu veux évoquer sur Brian Daboll, mais Daboll n'a pas perdu cette équipe, il a réussi à remobiliser les troupes, même quand ça se passait mal. On aurait pu imaginer une saison vraiment catastrophique, tu vois, on serait sorti avec deux victoires, enfin un scénario à la Panthers où tout se passe mal jusqu'au bout, ça n'a pas été le cas. On a vu une équipe quand même capable de faire des choses, et qui en fin de saison a été plus solide, et notamment avec plus de points marqués, puisque si on regarde les trois derniers matchs, c'est 25 points marqués, 25 points marqués et 27 points. Donc tu vois, ça c'est là on voit une attaque qui quand même est plus sereine, plus solide, avec une O-line qui s'était enfin un petit peu stabilisée, et ça va avec, hein, ça va forcément, et on l'a dit, mais je sais pas combien de podcasts différents on en a parlé de cette ligne offensive, mais tout va partir de là, et tant qu'on n'arrivera pas à avoir quelque chose de solide, et ça passe aussi par le coach de la O-line, hein, qui a été changé déjà, puisque vous savez que Bobby Johnson a été viré, on a récupéré un remplaçant. On espère que ça va nous aider à vraiment un peu ancrer cette ligne offensive qui a eu, en plus des blessés, un coach qui apparemment n'était vraiment pas terrible. Donc il y a quand même de l'espoir. C'est pour ça que cette saison, même si on est à 6-11, j'en sors pas complètement défaitiste. J'ai vu une équipe qui, en fin de saison, jouait au football. Contrairement au début de saison où la défense faisait ce qu'elle pouvait et l'attaque mettait moins de 10 points par match en moyenne, c'était absolument terrible. Et globalement, d'ailleurs, on parlera des stats globales juste après sur la saison, on est quand même dans les pires attaques de la ligue, puisque cette fin de saison, on marque un peu plus de points, ne nous permet pas de compenser les matchs catastrophiques du début de saison.
Ouais, non, il y a clairement des points positifs à tirer de cette saison, et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que Brian Daboll est un coach apprécié des joueurs. Il a le soutien du vestiaire, il n'y a aucun doute. Il a fait un travail quand même, il faut le dire, absolument remarquable avec Tommy DeVito. Alors c'est pas lui tout seul, hein. C'est aussi Kafka et c'est aussi Tierney qui ont transformé un undrafted rookie en un QB qui est le QB avec le meilleur bilan des Giants cette saison, hein. 3 victoires, 3 défaites. Daniel Jones, c'est une victoire, 5 défaites, et je crois que Taylor, c'est une victoire, 3 défaites. Mais juste puisque tu en parlais, on peut en discuter maintenant. On vous a parlé la dernière fois des tensions qu'il y a eu entre Daboll et Wink Martindale, et puis il y a d'autres choses qui sont sorties entre temps, un peu plus sur Daboll, qui nous font penser que Daboll n'est pas non plus tout blanc dans cette affaire. Alors on vous met juste un petit warning, un petit disclaimer au début. Le premier article vient de Pat Leonard. Alors Plax n'aime absolument pas Pat Leonard.
Non, je le déteste.
Il me dérange pas plus que ça, mais c'est pas le beat writer que je préfère. Mais c'est vrai que c'est un gars, il a la réputation de tout le temps critiquer les Giants, et c'est tout le temps ultra négatif ce qu'il écrit. Et là, en l'occurrence, ce qu'il écrit, c'est de dire que Brian Daboll est un gars complètement toxique au travail, dans le sens où il insulte tout le monde à longueur de journée, qu'il aurait retiré le play calling à Mike Kafka plusieurs fois dans la saison, jusqu'à même à mener, enfin tu sais, aller dans les meetings offensifs et de dire c'est moi qui vais mener le meeting offensif à ta place. Donc en gros, il a complètement sapé l'autorité de Kafka et potentiellement sa confiance. Brian Daboll est vu comme étant quelqu'un de très impulsif, qui en gros, pendant les rencontres, va complètement changer d'avis alors qu'il s'était mis d'accord sur un certain plan de jeu pendant la saison, quoi. Enfin, pendant la semaine qui précède le match. Donc ça, c'est ce que nous dit Pat Leonard, et quand tu vois ça, tu dis « Ouais, pas terrible ». Et en fait, il y a le New York Post qui a aussi fait un article sur le sujet, qui est pas aussi noir que Pat Leonard, mais qui laisse entendre qu'en effet, Daboll serait assez difficile à gérer vis-à-vis des autres coachs, que c'est quelqu'un qui est très caractériel et qui, quand il est mécontent, bah, le fait savoir. Et on l'a vu, hein, d'ailleurs, à plusieurs reprises sur le banc de touche. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, en fait, c'est sa relation avec Mike Kafka, qui est un jeune coordinateur offensif et qui, en fait, s'est vu retirer le play calling plusieurs fois pendant la saison. Donc ça a été confirmé. Tu vois, moi, je le mets dans ma propre situation au boulot. Si moi, j'avais un patron qui me micromanageait comme ça, je pèterais un câble. C'est juste pas possible. Et en fait, maintenant, la question, c'est est-ce que Mike Kafka, qui est en train de passer des interviews pour devenir head coach, peut-être, je crois qu'il est allé chez les Titans et il a passé un autre entretien
Ouais,
chez
il y
les
en a eu deux,
Seahawks.
ouais.
Voilà. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va se dire, bah non, je vais voler de mes propres ailes, ça ira peut-être mieux.
Ouais, c'est. Alors, effectivement, pour Pat Leonard, moi, j'avais arrêté de le suivre quand tout ce qu'il disait, c'était négatif tout le temps. Ça m'avait gavé, en fait, qu'un mec comme ça n'essaye pas d'un peu d'être positif de temps en temps quand des choses vont bien. Il faut toujours qu'il aille chercher le petit truc qui va pas pour le mettre en avant. Je crois que c'est assez. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que Daboll peut être parfois difficile à vivre, il va gueuler sur des mecs, de toute façon on le voit sur le bord de touche, hein. Il y a des moments où il pète complètement des câbles. Après tu dis qu'il a retiré le play calling alors que c'était prévu peut-être autrement, etc. Ok, mais est-ce que c'est pas aussi son rôle de s'adapter et de faire en sorte que si quelque chose ne va pas, j'imagine que s'il le fait, c'est pas par plaisir, c'est parce que c'est lui qui a choisi Mac Kafka, hein. Donc s'il le fait, c'est qu'il a dû estimer qu'à un moment donné, les jeux appelés n'étaient pas bons, etc. Donc ils ont. J'espère corriger ça. Je pense qu'en fin de saison, ça avait l'air de se passer plus ou moins correctement avec Mike Kafka. En tout cas, il est rien ressorti de négatif avant ces histoires avec Pat Leonard. Dans tous les cas, Kafka, ça fait plusieurs fois. L'année dernière déjà, il avait passé des entretiens pour devenir head coach. Bon, ça, à un moment donné, je crois qu'il sera pris quelque part dans tous les cas, donc ça va pas changer grand-chose. Mais pour moi, c'est aussi le rôle d'un head coach que de savoir s'adapter. S'il fait pas un bon boulot, il fait pas un bon boulot et tu lui retires le truc, tu vas pas te dire, bah non, écoute, ça va pas, mais je vais être sympa, je vais te laisser le play calling alors que ça se passe pas bien. Bon, de toute façon, c'était un sujet, on l'avait déjà évoqué dans un podcast où on avait plus ou moins cru comprendre, voir Daboll appeler les jeux à la place de Kafka. Il y a même des gens qui ont fait des vidéos d'analyse où quand la caméra arrive sur l'un ou sur l'autre, ils essayent de comprendre est-ce que ça a été changé ou pas. Daboll, évidemment, a dit que non, mais je pense qu'effectivement, il lui a retiré le play calling à plusieurs reprises. Bon, moi, je suis pas spécialement choqué par ça. Le seul truc qui peut peut-être être gênant, c'est si vraiment il est comme il le dit, vraiment impossible à vivre, etc. Je pense pas que ce soit le cas. Si c'était le cas, on en aurait entendu beaucoup plus parler par beaucoup plus de monde. Il y a quand même beaucoup d'insiders qui sont là tout le temps et qui voient les échanges entre les joueurs, les coachs, etc. Alors, ils sont pas dans les réunions entre les coachs, évidemment, mais ils auraient entendu des choses et vu des choses. Et là, à part Pat Leonard, moi, écoute, je l'ai limite appris en début de podcast ce que tu viens de me dire. C'est pas quelque chose que j'avais entendu. Après, sur le fait qu'un coach, un head coach, gueule un peu à droite à gauche sur des gens pendant un match ou quoi, je crois que tout le monde s'en fout un peu. Ça fait partie des choses, un head coach, ça gueule. Moi, tous les coachs que j'ai connus, ils ont tous gueulé à un moment ou à un autre. C'est comme ça, et puis voilà, ça me pose pas trop de problème, et je pense que les joueurs et les coachs s'en fichent un petit peu de ça. Maintenant, voilà, c'est sûr que, comme tu disais, si c'est dans la relation au quotidien, au travail, où il est toxique, ça c'est plus problématique, mais j'ai bon espoir que ce soit pas vraiment le cas. Josh Allen le connaît très bien, si c'était un problème, il ferait ce qu'il faut, donc même s'ils sont potes, je pense que s'il y avait vraiment un souci à ce niveau-là, Daboll aurait déjà sauté depuis longtemps. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais j'ai plutôt confiance en Josh Allen là-dessus.
Oui, bah justement, comme tu parles de Josh Allen, l'affaire était suffisamment importante pour que pendant quelques matchs, il décide d'écouter les communications des coachs pendant la saison. Alors, rien ne laisse paraître du côté de Josh Allen, hein, il a une très bonne poker face. Mais mon point, c'était de dire, c'est que même si on sait que c'est Pat Leonard, que le type est extrêmement négatif, l'affaire était suffisamment importante pour que d'autres beatwriters reprennent cette affaire et apportent un peu leur version. Pas pour contredire Pat Leonard, mais juste pour mettre un peu d'eau dans le vin en disant, bon, c'est pas aussi noir que ce que Pat Leonard dit, mais c'est vrai que Brian Daboll est quelqu'un de caractériel et peut être un peu difficile pour les coachs.
Ok, bon, eh ben écoute, on verra bien. Moi, ça m'inquiète pas spécialement plus que ça. Comme je l'ai dit, Pat Leonard, je fais pas ultra confiance à ce qu'il peut dire. Et comme toi, en fait, je le suivais et je me suis désabonné carrément. J'étais pas un grand fan. Nous verrons bien ce que ça va donner, mais voilà, encore une fois, si y avait vraiment un gros souci, je pense que ce serait ressorti d'autres sources. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'une seule source qui soit capable de donner cette information. Bref. Passons sur ce sujet, si tu le veux bien, mon petit Thiergo. Nous allons enchaîner sur quelques chiffres de cette saison pour voir comment on se situe par rapport aux autres équipes et comment on se situe dans la NFL en général. Alors, je te donne quelques chiffres et puis tu me diras, toi, de ton côté, ce que tu as retenu comme chiffre important. Yards à la passe, 169,8, ça nous place 31e. Yards à la course, ça c'est un peu mieux, 110,2, ça nous place 16e, donc pile au milieu du tableau. Les points, alors ça c'est tu vois, le petit problème qu'on a, c'est que les points marqués, on en a 15,6 en moyenne par match, ça nous place 30e, et les points encaissés, 23,9, ça nous place 26e. Donc globalement, nous sommes bottom tier, comme diraient certains. Est-ce que tu as d'autres stats, toi, qui sont plus encourageantes ou d'autres plus déprimantes? Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais mettre en avant?
Alors, côté attaque, malheureusement, j'ai pas forcément des stats beaucoup plus encourageantes. Je pense que la stat la plus encourageante que tu nous as donnée, c'est celle sur les yards à la course, où on est milieu de tableau, et c'est assez, c'est assez constant avec ce qu'on a vu à la télé, à savoir que bah, c'était Saquon Barkley et le jeu de course des quarterbacks qui nous a avancé. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux autres stats qui sont aussi très inquiétantes. On a les conversions de troisième tentative, où on était 30e de la ligue avec 30% de conversions faites. Et la pire stat, c'est celle des TD marqués en red zone. 44% de nos trips en red zone se sont conclus par un TD. Alors on peut se dire c'est assez énorme. Mais c'est quand même 31e de la ligue. Juste pour te donner un petit point de comparaison, l'année dernière, on était à 63% de nos trips en red zone qui se terminaient par un TD et on était 7e de la ligue. Donc tu vois, il y a un gros écart entre 2022 et 2023.
Ouais, de
Et
toute
puis c'est pareil
façon,
côté défense.
non, mais globalement, toutes les stats et tous nos rankings sont moins bons que l'an dernier. Alors, ce qu'il faudrait voir, en fait, ce qui serait marrant, c'est de faire les mêmes stats, mais du premier match jusqu'au milieu de saison, et pareil, mais du milieu de saison jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il y aurait vraiment deux tendances qui sortiraient de ça. Je dis pas
Ah
qu'on a
oui.
été complètement transformé, mais il y a quand même une sacrée différence là-dedans, et notamment sur les points marqués, on l'a bien vu, on en a parlé, beaucoup plus de points marqués en fin de saison qu'en début de saison, où c'était compliqué, on n'arrivait pas à trouver de rythme, il y a eu ces problèmes d'O-line qui nous ont vraiment pourri. Donc c'est pas si étonnant que ça, mais quand même, on pourra faire ce petit exercice pour rigoler,
Alors, tu
d'aller voir les
vois,
stats, mais que à la fin de la saison.
sans vouloir remettre le sujet d'Abol sur la table, dans l'article. Dans le fameux article, il parle du fait que Daboll donc s'occupait des meetings de l'attaque en début de saison parce qu'il trouvait que c'était catastrophique. Et il disait, bah, en fait, la raison, c'était justement qu'on était à 11,5 points marqués par match et il a redonné le contrôle à son coordinateur une fois qu'on était passé à 24 points par match. Donc, en effet, il y a eu une évolution extrêmement positive. Pour l'attaque, pour la défense, c'est une affaire différente. Mais si on voulait rentrer dans ce niveau de détail de comment s'est passée la première partie de saison et la deuxième partie de saison, je pense qu'il va falloir qu'on prenne un stagiaire, parce que là, ça montre quand même un niveau d'analyse assez élevé. Donc ça, c'est pour l'attaque. Pour la défense, en fait, en effet, la défense, on reste quand même au fond du tableau dans plein plein de stats. Mais ce qui est ultra encourageant, c'est les turnovers. On est deuxième de la ligue avec 31 turnovers. En fumble récupéré, deuxième de la ligue avec 13, hein, sachant qu'on avait provoqué 19. Et puis interception, alors là, septième de la ligue en nombre d'interceptions, mais on est premier de la ligue en yards retournés par interception avec 404. Et c'est logique, puisque sur ces 404 yards, il y a 102 yards qui sont attribuables à l'interception de Jason Pinnock contre les Miami Dolphins, qui est l'interception la plus longue de la ligue cette année.
Est-ce que c'était
Donc
pas
tu.
sur une passe déviée par Okereke d'ailleurs? Je me demande. Je me souviens plus. Il y en a eu pas
Oui,
mal
si,
des
si,
interceptions
si,
avec passe déviée
si.
par Okereke. C'est un
Ouais.
truc qui me reste en tête, je sais pas pourquoi.
Non, tout à fait. Ouais, non, mais tu vois, côté turnover, on était très très bon. Je pense que, en fait, si tu regardes. Cette défense, globalement, ce qui a marché, c'est clairement les turnovers. Mais ce qui ne marchait pas, c'est que défense contre la course, on était absolument catastrophique. On a donc 117 plaquages manqués, on est 8e de la ligue, le premier étant le pire, hein. Donc c'est pas 8e dans le bon sens, c'est ce que je veux dire. Et d'ailleurs, en début de saison, enfin, rappelle-toi, hein, c'était tellement catastrophique. Okereke, d'ailleurs, on voulait le virer au bout de 4 matchs parce qu'il savait arrêter personne, puis ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, et après, ce qu'on a surtout remarqué, c'est que dès que Dexter Lawrence n'était plus là, il galérait beaucoup plus. Donc ça te montre aussi l'importance de Dexter Lawrence dans cette escouade. Et puis le deuxième point, c'est la pression sur le QB, où là, on était vraiment pas bon, on n'arrivait pas à la mettre régulièrement. On a quand même eu Kayvon Thibodeau qui nous a fait... alors, c'est 11 sacs et demi ou 12 sacs et demi ce qu'il
11
a fait
demi,
cette saison.
Je crois que c'est 11 et demi, je vais retrouver.
Mais bon,
11 et demi, c'est ça.
Voilà, même si les sacs ne racontent pas toute l'histoire, c'est une stat qui est assez parlante, et nous, on n'a fait que 34, ce qui nous classe 28e de la ligue. Donc c'est vraiment pas terrible.
Non, malgré le nombre de blitz envoyés par Wink Martindale, parce qu'on sait que c'est... j'ai pas la stat exacte, mais on est fait partie des top 2-3 équipes qui... Voilà, deuxième.
Deuxième de la ligue avec 45%. Ouais,
voilà, donc c'est assez énorme. Ça a très bien marché dans le dernier match contre les Eagles, où ils ont pas vu le jour. D'ailleurs, là, on a tout cumulé. On a cumulé les sacs, les turnovers, les pressions. Enfin, là, tout était positif. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que cette défense... elle était agressive, et donc ça passe ou ça casse. Quand ça passe, tu fais des turnovers. Quand ça casse, tu laisses des opportunités à droite à gauche, et les adversaires en profitent. Et forcément, tu encaisses beaucoup de yards, beaucoup de points, et c'est un peu plus compliqué. À l'inverse, encore une fois, je reprends ce match des Eagles. On a eu l'exemple où les mecs n'ont pas vu le jour en face, et où tout passait, et ça fonctionnait bien, même si, bon, on sait que les Eagles de fin de saison, c'était absolument catastrophique aussi. Alors, juste pour revenir sur le nombre de sacs, j'étais en train de regarder... Thibodeau 11,5, le deuxième meilleur c'est Dexter Lawrence avec 4,5, et ensuite on a 2,5 pour Okereke, donc c'est pas terrible. T'aimes bien quand même avoir un deuxième saqueur qui peut être à 5, 6, 7. 11,5 c'est bien.
On comptait sur Ojulari, quoi.
On comptait sur Ojulari. Ojulari il en fait 2, mais alors il a encore manqué une partie de la saison. Attends, j'essaie de le retrouver dans mon tableau. Bon, je l'ai pas sous les yeux, mais il a manqué une bonne partie de la saison malheureusement. Il a commencé, j'ai l'impression, à revenir un petit peu mieux en fin de saison. C'était quand même assez décevant par rapport à ce qu'on a vu. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le pourcentage de plaquages manqués. Il y en a eu beaucoup, surtout en début de saison, où ça a été très problématique. Et même des joueurs qui ont été excellents, comme Micah McFadden, qui a eu plusieurs fois des notes PFF vraiment excellentes. Et qui a... Tu te rappelles, à un moment, on était aux anges, on se disait, putain, cette doublette de inside linebacker, c'est vraiment des monstres. Mais en fait, on se rend compte que Micah McFadden, il a été assez irrégulier, et il finit la saison avec 17,9% de plaquage raté. C'est quand même assez énorme, là où Okereke, qu'on critiquait plutôt en début de saison, et finalement il a été vraiment bon. Il fait que 7,5% de plaquage raté pour un total de 149 plaquages sur la saison. C'est bien évidemment notre meilleur plaqueur. Donc voilà, il y a quand même des lacunes assez évidentes dans cette défense, et peut-être que c'est ça aussi que critiquait Daboll, c'est que c'était un peu trop... Enfin voilà, il y avait cette volonté de Martindale de dominer l'attaque, mais c'était peut-être un peu trop téléguidé, on va dire, où la défense, l'attaque adverse savait exactement à quoi s'attendre. Donc il y a peut-être aussi des choses qui n'allaient pas à ce niveau-là et qui a pu entraîner des problèmes entre Daboll et Martindale.
Oui, non, clairement. Et ce qu'on voit cette saison, hein, c'est que y a beaucoup de domaines où on doit s'améliorer. Je suis très curieux de savoir qui sera notre prochain coordinateur défensif.
Tu sais si on en a interviewé certains ou pas ? Pour l'instant, c'était qui ? Je n'ai pas suivi. Est-ce qu'il y a eu des interviews de coordinateurs défensifs ?
Écoute, pas que je sache. Je crois qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Brian Daboll allait retenter Patrick Graham qui est chez les Raiders, parce que rappelle-toi que quand Daboll est arrivé, il voulait garder Graham, mais Graham ne voulait pas rester. Sauf que les Raiders viennent d'annoncer que Antonio Pierce est confirmé comme head coach, et il est possible qu'Antonio Pierce veuille garder Graham aussi. Hein,
bah, bien sûr, c'est clair.
Ce serait assez logique.
D'ailleurs, bravo à Antonio Pierce, c'est très cool qu'il soit...
Ouais, c'est une super nouvelle. Enfin, je me suis jamais autant passionné pour un head coach d'une autre équipe.
Bah parce qu'on l'a kiffé, hein. C'est le dernier vrai middle linebacker qu'on a eu depuis Okereke, qui on l'espère durera plus qu'une saison.
Non, c'est clair.
Qu'est-ce que tu penserais d'un Steve Spagnuolo ? Ce serait cool, ça, non ? Je sais pas si... Quel âge il a, lui, maintenant ?
Tu sais, Spagnuolo, il est, ouais, il doit avoir fin de quarantaine, début de cinquantaine. Il est chez les Chiefs.
Oh là là, t'es gentil, il a 64 ans. Tu le vois un peu trop
Sérieux?
jeune. Ouais,
Il
soixante-quatre
est
piges.
si vieux que ça. Bah, je vois pas forcément quitter les Chiefs. Ça se passe bien
Non, bien
pour lui,
sûr que
non?
non, mais attends, de toute façon, les coordinateurs, t'as deux possibilités. Soit tu vas choper des coordinateurs qui sont déjà coordinateurs ailleurs. Là, j'imagine que la seule motivation que tu peux avoir, c'est de lui donner plus d'argent que ce qu'il a déjà, ou alors peut-être déménager dans une ville qui peut plus l'intéresser, j'en sais rien. Ou sinon, tu vas chercher un coach linebacker, un coach, voilà ce que tu veux, QB qui pourrait devenir un coordinateur offensif, ce genre de choses, comme ça a été le cas
Ouais.
avec Mike Kafka. Bon, je suis quand même assez pressé qu'on ait ces noms-là, puisque ça peut peut-être orienter aussi un peu la manière dont on va drafter la free agency, donc faut pas non plus trop attendre, je pense.
Ouais, alors il y a des rumeurs qui parlent aussi de notre coach DDB comme étant quelqu'un qui pourrait être promu
Ah, il est
coordinateur
excellent, il est
défensif,
excellent, tout à fait, ouais.
très apprécié des joueurs aussi.
C'est vrai.
Donc il y avait des rumeurs sur Leslie Frazier. Qui avait travaillé avec Brian Daboll chez les Bills. Mais bon, ce qu'on a vu, c'est que toutes les, enfin, certains des coachs que Brian Daboll a ramené des Bills en arrivant chez les Giants, ce n'était pas forcément une réussite. Hein, ligne
Non.
offensive, ça en fait partie. Et puis, qui d'autre? Derek Ashley des Los Angeles Chargers.
Qui est coordinateur défensif des Chargers.
Ouais. Ouais.
Et ils n'ont pas été juste ultra nuls en défense, les Chargers, cette année? Je sais pas, j'ai pas suivi exactement tout ce
Et
qu'ils ont fait,
bah,
mais...
les Giants ont demandé la permission de lui parler.
D'ailleurs, je sais pas si t'as suivi, mais il y a eu plein de coachs, on a demandé des permissions, et ça nous a été refusé, genre les Falcons, ils ont autorisé
Ouais.
personne, on l'a demandé plusieurs fois, qu'est-ce qu'ils nous font chier, les Falcons, là, c'est quoi cette histoire?
Bah, on en parlait la dernière fois,
Ouais, mais c'est
c'était
bizarre.
pour le coach des Special Teams. Mais bon, enfin, ce qui est bizarre surtout, c'est qu'en fait, c'est refuser des interviews alors que tu viens de virer ton head coach.
Ouais, je suis
Donc,
d'accord.
bon, on verra. Mais c'est vrai que là, pour le moment, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de news. Alors, il y a Larry Izzo qui a passé un entretien pour le poste de coordinateur des Special Teams. Izzo, en fait, il travaillait chez les Seahawks, mais surtout, Izzo, en fait, il bossait pour Tom Quinn. Chez les Giants il y a quelques années. Donc il connaît bien l'équipe.
D'accord.
Alors après, je ne sais pas ce que vaut la Special Teams des Seahawks. Je ne sais pas ce qu'elle valait ces dernières
Comment veux-tu que je
saisons.
sache ce que vaut la Special Team des Seahawks? Alors là,
Non,
celui...
mais. Mais bon, tu vois, ça avance
Ouais, bah
doucement.
on aura l'occasion de toute façon d'en reparler dans les épisodes suivants. Donc là, c'était le but de cet épisode était de faire un bilan global et de se dire que bah oui, cette saison, effectivement, statistiquement, c'est plutôt pas terrible du tout, que le début de saison a vraiment été mauvais et que il y a quand même eu une équipe qui n'a pas lâché et qui a réussi à remonter le niveau et qui donne des motifs d'espoir pour l'année prochaine. On a vu une équipe quand même compétitive et qui a réalisé des bons matchs en fin de saison, donc ça c'est ça qui est intéressant. On fera un bilan plus joueur par joueur, enfin escouade par escouade, et en allant plus dans le détail des joueurs, parce que là on a quand même très peu parlé des joueurs, on a donné quelques stats mais c'était assez léger. Et donc on fera évidemment l'attaque et on fera également la défense dans les semaines qui viennent et on parlera bien sûr de toutes les actualités puisqu'il risque de se passer beaucoup de choses dans les semaines qui viennent, avec évidemment des nouveaux coachs qui devraient signer. Donc on fera évidemment le point sur tout ça. Et puis voilà, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter, Thiergo, avant qu'on rende l'antenne?
Non, on a fait le tour de la question et puis moi j'ai hâte qu'on fasse justement ces épisodes sur les joueurs. C'est toujours super intéressant de discuter de qui a bien joué, au contraire, qui nous a un peu déçus. Il y aura plein de choses à raconter.
Qu'est-ce qui te motive le plus dans les semaines qui viennent? Les signatures des coachs, la free agency, la draft, c'est quoi le truc qui te met un peu de piment là? Parce que c'est vrai que l'intersaison, c'est toujours un peu compliqué, c'est quand même assez long.
Ah ben, tu l'as dit, hein, savoir qui va être notre coordinateur défensif, c'est numéro un. Donc réglons les coachs dès que possible. Et je pense qu'en fait, plus on va se rapprocher de la fin du Super Bowl et plus on aura de visibilité, hein, parce qu'il y a des coachs qui aujourd'hui sont encore bien occupés. Et puis après, dès que ça se sera réglé, ouais, la partie la plus sympa pour moi de l'intersaison, c'est naturellement la draft, mais on a la free agency juste avant. Donc,
Ouais.
que les auditeurs soient rassurés, on ne va pas vous lâcher pendant plusieurs mois, au contraire, je pense qu'on va se parler assez régulièrement.
Ouais, tout à fait. Eh bien voilà. Eh bien merci Thiergo. On vous
Merci à
dit
toi.
à très bientôt pour le prochain épisode. Continuez à faire le bilan. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de cette saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a analysé ou si vous n'êtes pas d'accord, eh bien n'hésitez pas à nous en parler un petit peu. Ça nous fait toujours plaisir. À très bientôt sur Only Agent Podcast. À plus tout le monde. Ciao.
Ciao.